Dissuasion nucléaire chimiquement pure. La formule est celle du diplomate Nicolas Roche dans Les Mondes en guerre, publié en 2021. Il soulève la singularité d'une dissuasion française strictement vouée à menacer de riposte un agresseur pour empêcher la guerre. Une arme placée exclusivement entre les mains du président, faisant de la France une monarchie nucléaire, reposant sur une doctrine qui, ces 30 dernières années, n'a connu que de rares évolutions, précise l'historien Yannick Pincé, chercheur au Centre interdisciplinaire sur les enjeux stratégiques.
On a notamment renoncé à l'armement tactique qui représente en fait les armes nucléaires qui visaient des objectifs militaires. Jacques Chirac a renoncé au ciblage démographique pour cibler en fait ce que l'on appelle des dommages inacceptables sur les adversaires. Et on est passé de trois composantes nucléaires, donc terre, mer, air, à deux composantes, terre et air.
Deux composantes, donc les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins dotés de leurs missiles balistiques stratégique M51 et la composante aérienne avec les Rafales et leurs missiles ASMPA au service d'une doctrine invariable, invariable jusqu'au bouleversement majeur de la guerre en Ukraine et d'un éventuel retrait du parapluie nucléaire américain, comme le laisse entendre le candidat Donald Trump. Alors la dissuasion nucléaire française peut-elle se partager? Impossible, pour une raison simple, qui appuierait sur le bouton? Mais néanmoins, depuis le discours de Toulon en 2022, Emmanuel Macron a la volonté d'européaniser la capacité nucléaire, une réassurance qui, en filigrane, existe déjà, pointe Yannick Pincé.
Rien que la présence de soldats français à l'Est est une forme en fait de réassurance nucléaire, puisque en cas d'offensive russe contre un pays d'Europe de l'Est, ça passerait par des combats contre des soldats français, contre des soldats d'une puissance nucléaire, ce qui ferait réfléchir à la base. Mais on peut imaginer tout un tas de dispositifs qui maintiendraient la souveraineté française sur nos armes nucléaires. On peut, par exemple, comme on l'a fait lors de nos exercices aériens, inclure des avions alliés dans nos exercices de raid nucléaire. On peut aussi stationner des rafales dans des pays d'alliés sur le modèle de ce que pratiquent les Américains au niveau de l'OTAN, c'est-à-dire que les armes nucléaires resteraient gardées par des soldats français et resteraient en fait dépendantes d'un ordre d'engagement du président de la République française. Donc ce n'est pas vraiment un partage, c'est plus une européanisation et une forme de réassurance vis-à-vis de nos alliés.
Reste que les récentes inflexions constituent déjà un véritable tournant.
On ose en fait parler désormais de dialogue avec nos alliés sur la défense européenne, qui inclurait notre dissuasion nucléaire. On ose aussi envisager l'échec de la dissuasion. Ça, c'est le chef d'état-major de l'armée de terre, Pierre Schill, qui a parlé de ça il y a quelques semaines. Alors très exactement, il ne parlait pas d'échec de la dissuasion, mais il évoquait une agression sous le seuil des intérêts vitaux, c'est-à-dire sous le seuil nucléaire. Donc on ne voit plus en fait notre force nucléaire comme étant uniquement quelque chose qui empêche la guerre.
La dissuasion nucléaire n'est plus garante d'une paix absolue, en tout cas elle n'est pas un rempart contre la guerre hybride sous le seuil du conflit ouvert et dont la Russie s'est fait une spécialité.